Jean 14. Ce soir-là, nous n'allons pas lire tout de suite. Ce soir-là, Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. La veille de sa mort. Jean 13, 14, 15, 16, 17. Ce soir-là, Judas les a quittés pour aller chercher le prix de la trahison. Vous vous souvenez? 30 pièces d'argent. Ce soir-là, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Bien que un des disciples, Pierre, était réticent, pour ne pas dire rebelle. Jamais tu me laverais les pieds. Ce soir-là, Jésus a prévenu Pierre qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Beaucoup de choses se sont passées ce soir-là avant qu'on arrive à Jean 14. Et tout ceci pour dire que les disciples étaient tout sauf remplis de paix et de joie ce soir-là. Ce qui explique pourquoi Jésus, dans Jean 14, premier verset, et je lis, Jésus dit à ses disciples et à nous tous, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez le chemin, pardon, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces 6 versets qu'on vient de lire peuvent être lus dans des occasions ou des circonstances tout à fait différentes dans le milieu chrétien. Je donne un exemple. Ces versets peuvent être lus pour encourager un chrétien qui est troublé, un chrétien qui dont la paix est partie. Et on peut dire, mais frère, sœur, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, fais confiance à son Fils, Jésus-Christ, dans le domaine, on va dire, de l'encouragement. Mais ces versets peuvent être lus aussi dans le contexte d'un enterrement. Parce qu'il est question ici de la mort. Et Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors, il faut savoir que ce mot demeure que Jésus emploie, c'est un mot qui était utilisé à l'époque pour les maisons de repos tout le long des routes romaines. Vous savez, quand on voyageait à l'époque, de temps en temps, on s'arrêtait dans un abri, c'était comme un refuge, comme le refuge de montagne. On s'arrêtait là, on s'est restauré, on dormait, et le lendemain, on était prêt à repartir. Et Jésus prend ce mot-là pour dire, mais dans la maison de mon Père, il y a des demeures où vous allez pouvoir vous arrêter et vous reposer. Dans le ciel, avec le Seigneur, nous allons nous arrêter, oui, nous allons nous reposer, oui, mais nous allons le servir, oui. Dans le contexte d'un enterrement, ces versets peuvent être utilisés. Et ces versets nous rappellent aussi que Jésus va revenir. Il dit, je pars, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir. Et Jésus dit, je reviens pour vous prendre. C'est pas que Jésus qui dit qu'il va revenir. Les disciples, les apôtres disent aussi, ailleurs, Jésus va revenir. Et même le jour du jeudi de l'ascension, des anges disent, celui que vous avez vu partir va revenir de la même manière. C'est sûr et certain que Jésus va revenir pour prendre les chrétiens, ceux qu'il aime, ceux qui ont vécu pour lui et avec lui. Donc, ces versets peuvent être lus dans le contexte du retour de Jésus. Et tout à l'heure, quand Philippe lisait les textes sur l'écran, j'avais remarqué, il y a plusieurs « afin que ». Et puis Philippe l'a souligné. Et ici, il y a un autre. « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus reviendra pour qu'on soit avec lui. Et ces versets aussi, bien sûr, surtout le verset 6, peut se dire lors d'une soirée ou d'un témoignage, un moment d'évangélisation, où on peut dire, mais si tu cherches le chemin, la vérité et la vie, eh bien Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ces mots soulignent aussi l'unicité de Jésus. Il est unique, il est le seul chemin qui mène à Dieu. Alors, les chrétiens sont souvent attaqués, critiqués, parce qu'on nous dit, ah non, vous dites que vous avez raison. Mais nous ne disons pas que nous avons raison. Nous disons, Jésus, il a raison. C'est lui qui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ces versets peuvent être lus dans plusieurs contextes différents. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ces trois idées, le chemin, la vérité et la vie, ce sont trois idées qui reviennent très souvent tout au long de l'évangile de Jean. Des autres évangiles aussi, certainement. Mais surtout, je trouve, dans l'évangile de Jean. Par exemple, dans Jean 3, il y a un professeur de théologie qui n'est pas converti. Ça existe, hein? Il vient voir Jésus de nuit pour ne pas être vu par des gens. Et il comprend, en écoutant Jésus, qu'il n'y avait qu'une chose à faire pour devenir chrétien, c'était naître de nouveau. Croire en Christ, le Fils unique. Le seul chemin qui mène à Dieu. Il a compris que Jésus disait la vérité, qu'il était le chemin. En Jean 4, il y a cette femme de mauvaise vie qui vivait un peu n'importe comment sur le plan, on va dire, sentimental, et elle rencontre Jésus, et elle dit à tout le monde, ah ben cet homme-là, il y a quelque chose. Il parle, c'est un prophète, c'est le sauveur. Et des gens de son village se convertissent parce qu'ils se rendent compte que Jésus disait la vérité. Et que Jésus avait changé la vie de cette femme. Il y a d'autres exemples. Je pense à l'aveugle né dans Jean 9. Il ne comprend pas tout au sujet de Jésus. Mais il se rend compte, mais cet homme, il vient de Dieu. Cet homme, il est un prophète. Et il vient nous montrer le chemin qui va au Père. Je pense aussi à son discours en Jean 6. Après avoir nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons, dans son discours, eh bien, les gens comprennent que Jésus seul peut les satisfaire. Jésus seul peut combler le vide dans nos vies. Quand il dit, je suis le pain de vie, venez à moi et vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas soif. Tout ceci, et peut-être dans votre tête, vous êtes en train de dire, mais David, tu pourrais parler de ça, et de lui, et de ce texte-là, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de textes qui nous rappellent que Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. J'aimerais faire une petite pause, une petite halte, pour vous poser la question, sans que vous regardiez la Bible, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, en réponse à la question de la part d'un disciple. C'est de quel disciple qui pose la question? Thomas. Thomas a posé cette question. Merci, Thomas. Sinon, on n'aurait pas eu cette déclaration de la part de Jésus. Mais Thomas, c'est fort intéressant que ce soit Thomas qui pose cette question. Quand vous pensez à Thomas, vous pensez à quoi? Soyons honnêtes. Je vous verrai et puis je croirai. Il faut que je voie avant que je croie. Et ainsi de suite. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une conférence de presse avec le président de la République et son premier ministre. Et j'ai regardé cette conférence de presse et un journaliste a poser une question aux deux responsables politiques et le Premier ministre a répondu à la question. Il a essayé de citer ce que Thomas a dit dans Jean 20. Et le Premier ministre a mal cité le verset. tout de suite, le président de la République, je parle de, il n'y a pas longtemps, a repris le verset biblique et il a cité textuellement ce que Thomas a dit. Ah, je crois que plusieurs journalistes étaient scotchés, que les deux responsables politiques connaissaient ce texte biblique. Et moi, j'étais assez scotché aussi, je dois dire. En tout cas, je ne vais pas donner des noms, vous pouvez me voir après si vous voulez. Mais en tout cas, beaucoup de gens, chrétiens et non-chrétiens, savent un peu Saint Thomas, celui qui doute. Et beaucoup de non-chrétiens disent, ah, je suis comme Thomas. Si je vois, je croirai. Eh bien, vous savez, j'ai relevé que dans le Nouveau Testament, que Thomas parle, j'ai relevé à 4 reprises. Et les 4 sont dans l'évangile de Jean. Alors Thomas, lorsqu'il y a une menace de mort qui plane sur la vie de Jésus dans Jean 11, Thomas est le seul disciple qui dit, ah ben, si Jésus va mourir, allons-y tous pour mourir avec lui. Alors, pour affirmer sa foi, c'était intéressant. Jean 11, Thomas prêt à mourir. En Jean 14, bien sûr, Thomas pose cette question, Seigneur, je ne comprends pas, je ne pige pas. C'est quoi le chemin? C'est où le chemin? Et heureusement, Jésus répond. Il dit, je suis le chemin. En Jean 20, il dit bien sûr, à moins que je voie, à moins que je touche, je ne croirai pas. Un moment de doute, un moment de consternation. Vous savez, Jésus était déjà venu voir les autres disciples et malheureusement, Thomas n'était pas au culte ce jour-là. Quand on ne vient pas au culte, on rate des bénédictions. Le Christ ressuscité. Heureusement, Thomas était là quelques jours plus tard pour un moment de culte avec les disciples. Et puis la dernière fois que Thomas parle, la 4e fois, c'est quand il dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Pas besoin de faire autre chose. Il s'est rendu compte, Jésus, ce n'est pas juste le prof, le rabbin, le pédagogue, le charpentier, mais tu es mon Seigneur et mon Dieu. Heureusement que Thomas parle. Et heureusement que nous avons ces quelques mots qui sont sortis de sa bouche, qui peuvent nous parler de plusieurs choses par rapport à Thomas, et même par rapport à nous et à notre foi, ou à notre manque de foi peut-être. Thomas, alors revenons à ces propos fracassants de la part de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, beaucoup de gens que nous connaissons, que vous connaissez, cherchent leur voie, V-O-I-E. Ils cherchent une voie à suivre. Ils cherchent un chemin. Ils cherchent une direction dans la vie. Dieu le sait depuis toujours. Même dans les premiers livres de la Bible, Dieu parle à son peuple et dit, je vais vous montrer la voie à suivre. Je vous ai montré la voie à suivre. Dieu savait que les êtres humains cherchent toujours une voie, un chemin. Et heureusement, Jésus rappelle, Jésus dit, je suis la voie au Père. Je suis le chemin que vous devez prendre, que vous devez suivre. Et le Seigneur Jésus dit aujourd'hui, si vous êtes perdu, si vous vous trouvez au pied du mur, si vous vous trouvez à un carrefour, si vous pensez que vous êtes un peu paumé, eh ben, venez à Jésus. Il est le chemin. Il vous conduira, que ce soit par rapport à la vie éternelle, que ce soit par rapport à une décision importante dans la vie. Déposez votre question, votre fardeau au pied de la croix et le Seigneur va pouvoir vous aider et vous conduire. Jésus est le seul chemin. Quelqu'un me dit il y a quelque temps, tu sais David, on parle d'Alexandre le Grand. On parle du footballeur Pelé le Grand. On ne parle pas de Jésus le Grand, on parle de Jésus le Seul. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Jésus est le chemin. Beaucoup de gens qu'on connaît cherchent une voie à suivre. Et malheureusement, souvent, ils se trouvent sur des mauvaises pistes. et une mauvaise piste mène à une mauvaise destination. Et parfois, on récupère des gens à la petite cuillère parce qu'ils n'ont pas suivi le bon chemin. Jésus dit aussi, je suis la vérité. Et vous savez aussi que beaucoup de gens autour de nous sont en quête de vérité. Qu'est-ce que la vérité? D'ailleurs, beaucoup de gens, sans le savoir, posent la même question que pose Pilate, dans Jean 19, qui, devant Jésus, a dit, qu'est-ce que la vérité? Il ne savait pas que Jésus, la vérité, était devant lui, nez à nez. Une douzaine de chansons ont été enregistrées ces dernières années par des artistes français avec le titre « La vérité ». Une douzaine de chansons, des vieilles et des plus récentes. Guy Béard, Jennifer, Bernard Lavilliers, Michel Fugain, et ainsi de suite. Voilà les quelques paroles d'un chant, d'une chanson de Michel Fugain sur la vérité. Il dit, « Moi, je sais où la vérité n'est pas. » C'est un peu décourageant, hein. Il dit pas, « Je sais où elle est. » « Moi, je sais où la vérité n'est pas. » C'est déjà mieux que rien. Ça laisse à discuter, hein. Et nous voilà déjà perdus devant cet inconnu. Et il répète, « Moi, je sais où la vérité n'est pas. » C'est déjà mieux que rien. Je suis pas convaincu que ce soit mieux que rien, de savoir où la vérité n'est pas. C'est peut-être un premier pas, si on veut. Pendant la guerre au Vietnam, John Lennon, un ex-Beatles de Liverpool en Angleterre, il a écrit une chanson, « Give me some truth. Donnez-moi la vérité. Un peu de vérité. » Et dans cette chanson, il s'insurge contre les mensonges, les manipulations, les manœuvres coupables des politiques de son époque. Heureusement, tout a changé, hein. Les choses sont beaucoup mieux aujourd'hui. Ceux qui ne comprennent pas l'ironie, venez me voir à la fin du message. Voilà ce qu'il dit, John Lennon. Il a écrit ce chant en 69. « J'en ai marre de ces politiciens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui nous embobinent tous. Ils sont menteurs, égoïstes, ambitieux et corrompus. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Un peu de vérité. Qui me dira la vérité? Qui me donnera la vérité ?» Malheureusement, il n'a pas cherché auprès de Jésus-Christ. Il n'a pas cherché dans les évangiles. Malheureusement, John Lennon. Un autre auteur compositeur que vous connaissez certainement, Yves Duteil. Il a écrit une chanson sur la vérité. Il pose la question, où se trouve la vérité? Dans quelle guerre? Dans quelle armée? Du Vietnam à l'Afghanistan, de Greenpeace aux armes d'Iran, où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité? Comment croire à la vérité? Faut-il croire à la vérité? Il s'est posé ces questions il y a 25 ans quand il a écrit cette chanson, et peut-être qu'il se pose toujours la question aujourd'hui. Mais nous pouvons dire, grâce à la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis la vérité. Ce soir-là, quand Jésus a dit, je suis la vérité, il a dit aussi, quelques temps plus tard, je vais vous envoyer l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Et nous lisons ailleurs que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Tite 1, versets 1 et 2. Dieu ne ment pas. Alors si nous cherchons la vérité, eh bien nous l'avons auprès du Père, auprès du Fils, auprès de l'Esprit. Et dans une prière ce matin, quelqu'un nous dit, mais Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Facile de retenir. Jésus prie, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Nous avons la vérité auprès du Père, auprès du Fils, auprès de l'Esprit et dans sa parole. Ne cherchons pas ailleurs. Cherchons auprès de lui, l'auteur de la vérité. Et puisqu'il est vérité, il nous demande, ou plutôt, il exige que nous vivions dans la vérité, que nous disions la vérité que nous vivions dans la lumière, comme lui, il est lumière. Est-ce que vous avez l'habitude de toujours, toujours, toujours dire la vérité? Ou est-ce qu'un petit mensonge est permis? Un petit mensonge est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On pourrait dire beaucoup de choses au sujet de la vie. Philippe a dit tout à l'heure ce verset dans Jean 10, 10. Tiens, encore un verset facile à retenir, hein. Jean 17, 17, Jean 10, 10. Jésus dit, en tant que bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ou qu'elle soit avec abondance. Ça dépend de si c'est les brebis ou si on parle de la vie. Mais en tout cas, une vie abondante. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Bien, grâce à Jésus, on reçoit cette vie. Et comme une fois, on peut rencontrer quelqu'un qui dit, ah ben, avant de connaître Jésus, je ne vivais pas. Ça veut dire qu'ils étaient morts. Quoique morts spirituellement, si on veut. Je ne vivais pas, mais quand j'ai mis ma foi en Christ, j'ai commencé ce jour-là à vivre. Et combien c'est vrai. On commence à vivre vraiment lorsqu'on a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je conclue. Est-ce que vous êtes troublé ce matin? Que vous soyez chrétien ou pas? On est parfois troublé. Parfois, on dort mal. Non pas à cause de la literie, ou à cause des coques chez mes voisins, mais parce que ça travaille, ici, ou ici. Eh bien, quand on est troublé, la solution, c'est de venir nous confier au Père, au Fils, à l'Esprit. De tout dire au Seigneur. Il veut nous entendre, il veut nous écouter, il veut nous donner sa paix. Si vous êtes préoccupé par la mort, ou par qu'est-ce qui se passe après la mort, eh bien, je vous encourage aussi à venir au Seigneur, à lire sa parole, et à trouver ses promesses par rapport à la vie éternelle, mais trouver ses menaces par rapport à la mort éternelle, si vous ne savez pas où vous vous situez par rapport à ça. Le Seigneur, quand on est troublé, nous donne sa paix. Quand on cherche des choses, des certitudes, il nous donne ses promesses. Et si vous n'êtes pas sûr si vous êtes au Seigneur ou pas, eh bien, vous pouvez demander pardon à Dieu là où vous êtes. Demandez-lui pardon. Remerciez-le d'être mort à la croix pour vous. Et le Seigneur vous donnera sa paix, son pardon, sa présence. Et vous allez comprendre à croire et à apprécier ses nombreuses promesses. Jésus, il est unique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils. Merci pour tous ces « je suis » et pour toutes ces belles paroles que nous avons dans les évangiles. Nous te remercions car il nous a montré le chemin, il nous a toujours dit la vérité et il nous donne une vie avec un V majuscule. Seigneur, merci pour la vie que nous avons en lui. Aide-nous à rester sur ce bon chemin et aide-nous toujours croire à la vérité. Aide-nous aussi à toujours dire la vérité. Et merci car nous savons que tu ne vas jamais nous induire en erreur parce que tu es vrai. Merci Seigneur pour le don de ton Fils et aide-nous Seigneur à vivre la lumière de toutes ces vérités, jour après jour. En son nom, nous te le demandons. Amen.